Le paddock RMC, Jean-Luc Roy, Nicolas Paolorsi.
Salut les amis, on enchaîne. C'est le débrief de la 9e manche du championnat du monde, la Formule 1 qui termine son deuxième triple header après cet enchaînement européen Imola, Monaco, Barcelone. Il s'est passé encore pas mal de choses hier. Alors pas forcément d'un point de vue purement sportif, mais en tout cas en course, il y a eu certaines péripéties qu'il va falloir évoquer absolument, notamment une manœuvre de Max Verstappen, un contact avec George Russell qui fait débat, et qui fait même plus qu'un débat, c'est une vraie polémique l'attitude de Verstappen lors de ce Grand Prix de Barcelone. Sinon, McLaren a une nouvelle fois déroulé, Hadjar a encore une fois été très solide, on a revu le bout du museau de l'Alpine dans les points et on a eu une super Sauber. Voilà un petit peu le résumé de ce Grand Prix de Barcelone. Pour nous accompagner aujourd'hui, le team principal du paddock est là, Jean-Luc Roy from Miami. Salut Jean-Luc.
Salut mon Nico, bonjour à tous.
Tes deux ingénieurs préférés, la Dream Team est au complet, Alex Caldi et Louis Gerbier. Salut les mecs.
Ah yo, comment ça va?
Salut les gars.
Ça va?
Salut les gars.
Ça va? Alex Caldi qu'on n'a pas eu depuis quelques temps parce que monsieur était à Monaco, monsieur a interviewé Zinedine Zidane.
Voilà, c'est vrai.
C'est les fou 7, ça quand même.
Les 7 secondes les plus belles de toute ma vie d'ailleurs.
Et alors il est comment Zizou? Il est toujours aussi classe? Moi j'ai l'impression qu'il
ne bouge
pas le gars.
Il m'a fait un sourire, j'étais heureux quoi.
Tu m'étonnes. Voilà. Mais c'est vrai qu'il y a des sportifs comme ça, t'as l'impression qu'ils ont encore 30 ans quoi. C'est fou. Alors que ça fait 20 piges hein, Zizou quand même, mine de rien, 98, tout ça là, c'était il y a bien longtemps. C'est parti les amis. Attendez, juste avant quand même de partir dans ce débrief, je vous rappelle que le paddock est disponible sur toutes les plateformes de téléchargement, qu'il faut nous mettre une petite note, que c'est super important. Et donc on va y aller sur les notes de ce Grand Prix d'Espagne. Jean-Luc.
Écoute, je mets une petite moyenne, je mets 2,5. Voilà.
2,5 sur 5, je vous rappelle que les notes sur les plateformes de téléchargement sont sur 5. Louis ?
2.
2,
ah ouais,
Alex ?
Vous êtes dur, moi je mets un bon 3,5 quand même. Hein. Moi je
me suis régalé. Oh là là, il s'est régalé le Alex.
Optimiste, attendez, il y a eu beaucoup de dépassements, il y a eu un festival Isaac Hadjar, Verstappen nous a fait du divertissement, un bon Grand Prix de Formule 1 quoi.
J'aime bien quand tu tisses comme ça là. Je vous rappelle également qu'on a créé une page Instagram spéciale Formule 1, RMC Formule 1. Vous nous retrouvez sur Instagram si vous voulez voir la jolie cabine de Louis Gerbier notamment. Hein.
Toujours un plaisir. À regarder.
T'es vraiment un homme de télé. Tu sais que plus on diffuse des extraits, plus je me dis que t'es un homme de télé. Les mecs, c'est parti pour ce débrief du Grand Prix de Barcelone. Allez, le classement de la course avec la 5e victoire en Formule 1 d'Oscar Piastri qui s'impose devant Lando Norris. 2 secondes, 471 d'avance. C'est le 3e doublé McLaren de la saison. On y reviendra bien évidemment. Mais McLaren qui est en train de rouler sur tout le monde. Deuxième podium consécutif pour Charles Leclerc au volant de sa Ferrari. Il prend les 15 points de la 3e place. George Russell, 4e. Nico Hülkenberg, 5e. Lewis Hamilton, 6e. Isaac Hadjar, 7e. Pierre Gasly, 8e. Pierre Gasly dans les points. Fernando Alonso, 9e avec son Aston Martin, qui marque ses premiers points de la saison. Et là, vous allez me dire, les amis, mais où est Max Verstappen? Eh bien, il est là. Il est 10e. Max Verstappen qui a été sanctionné d'une pénalité de 10 secondes suite à un accrochage avec George Russell. Du coup, il termine seulement à la 10e place de ce Grand Prix. Les autres informations principales, Liam Lawson, 11e. Tsunoda, 13e, Franco Colapinto est dans les choux à la 15e position. Ça a été compliqué pour Haas et Esteban Ocon, 16e devant son coéquipier Oliver Berman. Kimi Antonelli a dû abandonner. Et d'ailleurs, ça a été un des faits de course importants de ce Grand Prix d'Espagne. Au classement des pilotes, Oscar Piastri a 10 points d'avance désormais sur son coéquipier Lando Norris qui reste au contact. Et il y a un vrai premier éclat là entre les deux pilotes McLaren et Max Verstappen. 137 points pour Verstappen qui est désormais à 49 points du leader du championnat du monde Oscar Piastri. George Russell est toujours 4e, mais Charles Leclerc revient hein, puisque Charles Leclerc est à 17 points de Russell. Lewis Hamilton 6e, et au niveau de nos Français, Isaac Hadjar qui continue de scorer s'installe définitivement dans le top 10 hein. Il reprend la 9e place à Esteban Ocon avec 21 points. Pierre Gasly avec ses petits points marqués ce week-end, 14e avec 11 unités. Au classement des constructeurs, McLaren 362 points. On va même plus parler de McLaren, limite. L'info au niveau des constructeurs, c'est que Ferrari a repris la deuxième place à Mercedes. 165 points.
Quel miracle,
ça. Ouais, ça c'est un petit miracle. Hein. Pour la Scuderia qui a 6 points d'avance sur Mercedes. Red Bull relégué au 4e rang avec 144 points. Alpine reste dernier malgré les points marqués par Gasly. 11 points pour Alpine. Aston Martin à la 9e place, à 5 points d'avance sur l'écurie britannico, un petit peu française. Voilà.
Encore.
Pas mal celle-là.
Cette saison, encore un peu.
Ouais, encore un peu. Les gars, on va revenir tout de suite sur le gros fait de course. C'est bien évidemment ces 10 secondes de pénalité pour Verstappen, Jean-Luc. Cet accrochage avec George Russell. Déjà, faut que tu nous resitues un petit peu le contexte, ce qu'il s'est passé. Pourquoi Verstappen a eu ce geste-là ? Est-ce que toi, t'en as pensé ?
Bah écoute, c'est un peu gênant pour tout le monde. D'abord, c'est extrêmement regrettable. Et bon, la pénalité qui lui a été appliquée, évidemment, était nécessaire. Il l'a reconnu. Bon, il a pété un câble. Alors, pourquoi a-t-il pété un câble ? Effectivement, la question est là. Bah, il fait un Grand Prix plus que correct. Hein. C'est peu de le dire, parce qu'il fait un Grand Prix à la Verstappen. Alors, on a cette option de 3 arrêts. De toute manière, si on veut essayer d'aller chercher les McLaren, qui sont une nouvelle fois absolument intouchables, il faut tenter quelque chose. Donc, c'est la stratégie à 3 arrêts de surcroît en mettant 2 trains de pneus soft au début. Donc ça a bien joué puisque Verstappen est resté au contact, on va dire, des McLaren. Jusque-là, tout se passait bien. Et puis, il y a eu évidemment ce safety car de dernière minute. Hein, d'abord du jaune au 55e tour et puis le safety car. Et qu'on a mis très très longtemps à évacuer, je trouve, beaucoup trop longtemps. Hamilton, entre autres, s'en est plaint. J'ai pas vraiment compris pourquoi. Je pense qu'on a perdu au moins 3 tours et on aurait dû demander, même aux pilotes attardés, puisque maintenant on les fait passer et remettre derrière, on aurait pu leur demander facilement 3 tours plus tôt de se remettre en ordre. Bref, passons. Donc Verstappen était un peu ulcéré, d'autant qu'on lui a mis les pneus durs et qu'il a demandé même pourquoi à l'ingénieur, en disant mais là je suis perdu, je suis au milieu de tout le monde en soft, je vais me faire massacrer. On lui a dit bah oui, seule solution. Évidemment, puisqu'on l'avait mis, les deux trains de soft au départ. Bon, passons, est-ce qu'il aurait pas mieux valu lui laisser les softs qu'il avait là depuis le 48e tour ? On en discutera ad vitam, mais personne ne le sait. Le résultat, c'est qu'évidemment, il essaie de monter ses pneus en température, mais il sait très bien que c'est mission impossible. Il se fait un snap, comme on dit, absolument énorme, dans le dernier droite avant la longue ligne droite. Évidemment, il en profite derrière Charles Leclerc. Il le passe, mais comme à la parade. Et là, je dois reconnaître, hein, tout le monde le sait, j'aime beaucoup Charles, mais là, ce qu'il fait, c'est moyen, parce qu'il se rabat carrément comme si Verstappen n'existait pas, quoi. D'ailleurs, Verstappen dit, mais attends, là, il faut lui mettre une pénalité ou il doit m'en rendre la position. Et puis tout de suite, tout ça passe à l'as. Pourquoi ? Parce que Russell s'engouffre derrière à l'aspiration de la Ferrari et lui aussi rentre trop fort dans le premier droite. Du coup, Verstappen n'a d'autre solution que de sortir de la piste, de prendre l'échappatoire et de reprendre. Et là, du coup, chez Red Bull, on dit « Oulala, normalement, il aurait dû perdre la position, on va lui demander de rendre la place. » Et c'est ça qui met Verstappen hors de lui. Donc, ça n'est pas, entre guillemets, une justification de son acte, hein. C'est une explication. Il est hors de lui parce qu'il s'est fait passer par Leclerc d'une manière un peu rugueuse, on va dire c'est le minimum. Il s'est fait sortir de la piste par Russell. On sait qu'entre les deux, ça va pas très fort, hein. Depuis la fin de saison dernière, on va pas y revenir. Et là, il dit, là, c'est la goutte d'eau, quoi. Donc, ok, il fait ce qu'on lui demande, il le laisse passer, et puis évidemment, immédiatement, il repasse devant avec cette connerie, on peut le dire comme ça. Il vient au contact, et là, pour le coup, c'est Russell qui doit sortir, et donc on ne parle que de ça. Alors, encore une fois, même un quadruple champion du monde, ça peut péter un câble. Est-ce que les vieux démons reviennent ? Dans ce genre de circonstances. Bon, moi, je l'explique comme ça, je le comprends. Néanmoins, c'est impardonnable et la sanction est bien tombée. Alors, il est quand même à un point d'arrêter de piloter, hein, pour un Grand Prix, un point de suspension.
Il a un point de... Ouais, exactement. Faut rappeler aussi, Jean-Luc, que c'est au 64e tour, hein, tout ça. Donc, on est quoi ? On est à 4 tours de l'arrivée. Donc, c'est vraiment, on est dans le money time du Grand Prix. Ce que je vous propose, les gars, c'est d'écouter George Russell, puis Max Verstappen, qui reviennent sur cet incident, et après, je vous fais réagir Louis et Alex. George Russell en premier, le pilote Mercedes.
Don't really know what to say, to be honest. As much of a surprise for me.
Ouais, ça a été une vraie surprise. pour moi, très honnêtement, je ne sais pas vraiment quoi dire pour être honnête. C'était aussi surprenant pour moi que pour vous. Je ne vais pas vous mentir. Je suis heureux d'avoir pu finir la course. C'est tout ce que je peux dire parce que j'ai pris un bon départ. J'étais coincé par Verstappen et Lando. Norris, ça a permis à Lewis de passer. J'ai ouvert la porte à Charles Leclerc. Ensuite, j'avais le rythme pour passer Charles Leclerc. J'ai eu le sentiment qu'il avait bougé, mais à la fin, c'était... C'était pas une course honnête, donc la quatrième position est un résultat normal pour vous. Bon, la fin de l'allocution de Russell elle nous intéresse pas trop, c'est au micro de Canal+, bien évidemment, hein, le diffuseur du championnat du monde de Formule 1. C'est surtout le début où on sent qu'il est un petit peu, sous le choc, pas sous le choc, mais en tout cas estomaqué par la manœuvre de Verstappen. La réponse de Verstappen, toujours au micro de Canal après la course.
Yeah, the unlucky bit was just for us, the safety car, and then
on a été
we went on to
malchanceux aujourd'hui avec la safety car parce que nous avons mis les pneus durs et cela a été une vraie problématique. J'avais pas d'adhérence. J'ai eu une frayeur à la relance. J'avais vraiment aucune adhérence avec ces pneus-là et on se retrouve dans ce genre de situation. Vu comme les règles sont écrites. Bah, c'est ce qui peut se passer parfois. En fin de compte, pour moi, je préfère ne pas trop parler de cet incident car on ne peut pas trop critiquer au risque de prendre d'autres pénalités. Voilà, bon, il fait de la langue de bois, Max Verstappen. Bon, il a quand même eu une petite réaction après en conférence de presse quand on a parlé des critiques de Russell suite à sa manœuvre. Il a dit laissez-moi sortir les mouchoirs. En gros, oui. L'air de dire il fait sa pleureuse.
Après, c'est un peu d'habitude comme ça. Hein. Russell, oui. Je sais pas qu'il fait sa pleureuse non plus, très loin de là, mais il fait en sorte que les accusés qui sont contre lui soient encore plus accusés. Quoi.
Alex, toi, t'es choqué parce que Verstappen a fait, c'est un vrai pétage de plomb.
Bah c'est un vrai pétage de plomb. Oui, clairement. Il y a, de toute façon, en fait, il y a beaucoup comparent en fait la situation de Verstappen avec ce qu'a pu faire Russell ou ce qu'a pu faire Leclerc ou même ce qui a pu se passer dans le passé dans l'histoire de la Formule 1. Ce qu'a fait Verstappen, c'est intentionnel. Il y avait intention de mettre potentiellement donc du coup George Russell dehors, en dehors de la piste, ou du moins agir avec une certaine vengeance par sa frustration. Verstappen est le meilleur pilote du monde, incontestablement aujourd'hui. Mais ça n'empêche pas qu'il faut aussi surtout critiquer ce qu'il s'est passé. C'est pas normal ce qui s'est passé. C'est un mauvais exemple de toute façon d'agissement, notamment par rapport à de jeunes pilotes qui débutent leur carrière en karting aujourd'hui. Parce que forcément, quand tu es petit, tu prends exemple sur ceux qui sont aujourd'hui les leaders de la catégorie 1 du sport automobile, donc forcément la Formule 1. Donc des jeunes vont se dire « Ah, ce que fait Verstappen, il est quadruple champion du monde !» Eh ben, ça veut dire que s'il fait ça, bah, ça me donne un certain exemple par rapport à ce que je peux faire en piste. Non, ce n'est pas bien. Et même si aujourd'hui Verstappen a 4 titres de champion du monde, ce qu'il a fait n'est pas acceptable et inacceptable. Il y a beaucoup de personnes qui comparent notamment ça à ce qu'a pu faire Michael Schumacher à l'époque sur Jacques Villeneuve en 1997. Il y a une certaine comparaison qui peut se faire. Ouais. De la finalité d'ailleurs, Michael Schumacher a été non pas disqualifié seulement de la course, si je ne me trompe pas, il était disqualifié du championnat tout entier.
Ouais, donc, il a perdu tous ses points.
Voilà. Ouais. Donc il y a un précédent par l'antisportif, parce que ce qu'a fait Max Verstappen, c'est antisportif et c'est un fait. Il a même reconnu d'ailleurs une certaine intentionnalité d'ailleurs Max Verstappen lorsqu'il s'est exprimé au montant de ça ce matin sur Instagram. Il a exprimé qu'il n'aurait pas dû faire ce geste, ça n'aurait pas dû arriver.
T'as raison Alex, oui. Hein, c'est ce que j'allais dire. Sur son compte Instagram ce matin, donc à froid, il dit il reconnaît une manœuvre qui n'est pas correcte et qui n'aurait pas dû se produire. Donc
il fait son mea culpa. Lui-même a reconnu donc cette intentionnalité. L'histoire, on peut presque dire, elle est close finalement, parce qu'il reconnaît que l'affaire, que c'est là où il a voulu agir d'une manière intentionnelle et qu'il aurait jamais dû faire ça. Point. Maintenant.
Mais alors Alex, moi j'ai posé la question à Louis, mais le problème c'est que la pénalité, elle aurait dû être plus sévère, non ? 10 secondes au final, c'est. Hein
ouais,
c'est pas cher payé.
C'est ça le souci.
Et 3 points qui le mettent à 1 point de
sur son suspendu. Permis.
Je sais pas comment ça se passe au niveau des points, s'il y a un tableau, une charte, ou s'ils avaient pu de manière arbitraire lui en mettre plus. Mais ça aurait pu être un beau moyen de le sanctionner fort sans qu'il y ait trop d'impact. C'est de lui mettre justement les 4 points pour qu'il ait une course rapidement. Parce que moi, je trouve que s'il s'en tire avec 10 secondes et en se foutant de la gueule de Russell en conf de presse, c'est scandaleux. comme ce qu'Alex a dit, je ne retire pas une ligne. C'est ça, quoi. C'est, on parle de choses comme on a vu faire Schumacher ou quoi. Il y a intentionnalité de rentrer dans l'autre. On n'est pas sur des situations où bah, c'est serré, on se serre, ceci, cela. Non, là, c'est lunaire. Et donc, si on s'en sort avec 10 secondes... Déjà, c'était très bien de lui mettre 10 secondes pour que ça impacte tout de suite et que ça permette aux autres d'être classés là où ils devaient l'être. Mais derrière... sans vouloir tirer sur l'ambulance ou faire la chasse aux sorcières, moi je pense quand même qu'il faut absolument, qu'il y ait une décision exemplaire derrière, d'une sanction. Alors je ne sais pas quelle qu'elle soit, il faudra peut-être la graduer ou pas, mais comme Alex l'a dit, il y en a un qui a pris. Alors on parlait d'un championnat sur la dernière course, tout ça, mais on n'a pas regardé son nom au moment de le suspendre sur toute la saison, quoi.
On a peut-être aussi regardé son nom, finalement.
Ouais.
C'est à l'époque Schumacher.
Mais ouais, c'est différent. Hein. Là, j'ai bien connu, je commentais en direct. Alors.
Non, mais évidemment qu'il y a des différences.
Ouais.
Je suis pas en train
là,
de
si
dire
on
que...
revient là-dessus, ouais, c'est
je
pas
suis pas en train,
comparable.
Je suis pas en train
c'est
de dire
comparable.
Que ce sont les mêmes choses, non. Mais je suis en train de dire que dans chacun dans leur catégorie, c'est détestable. Et ça n'a rien à faire là. Et du coup, pour ces raisons-là, il faut sanctionner ça. Et je pense que 10 secondes de pénalité, c'est peanuts. Et s'ils s'en tirent qu'avec ça, je ne serais pas satisfait.
Je rebondis sur ce que tu as
dit. La pénalité... vas-y, Alex, vas-y.
Non, ce que j'allais dire, c'est que moi, c'est exactement ma pensée. C'est-à-dire qu'on peut, on fait l'éloge de Ayrton Senna à juste titre pour son talent. On fait l'éloge de Michael Schumacher à juste titre pour son talent. Ce sont des légendes de la Formule 1. Mais eux, même s'ils sont de légendes, ils ont fait des actes qui sont impardonnables. Mmh. Justement, Ayrton Senna, il est rentré volontairement pour anéantir les chances de championnat à Alain Prost. Par contre, ça n'enlève en rien tout le talent qu'il avait. Ce sont des légendes de la Formule 1. Verstappen est en train de devenir une légende de la Formule 1. Mais ce qu'il a fait aujourd'hui est inacceptable par cet acte absolument antisportif et inacceptable.
Ouais. Jean-Luc, toi sur la pénalité, qu'est-ce que tu en penses sur ces 10 secondes? Et on faisait la comparaison là avec Schumacher, pourquoi pour toi ça n'a rien à voir?
Bah, ça n'a rien à voir parce que déjà c'était la dernière course du championnat, le titre se jouait là. Hein. Et puis rappelez-vous, c'était quand même une agression de l'extérieur vers l'intérieur. Hein. Alors, bon, ouais. Là, Verstappen peut toujours prétendre, c'est ce qu'il dit un peu, c'est qu'il, bon, ok, il a exagéré, ok, il s'est un peu raté. Ce qu'il voulait, c'était laisser, vous l'avez bien compris quand même, hein, c'était respecter ce qu'on lui demandait, c'est-à-dire laisser passer.
Prendre la place, ouais.
Bah voilà, il l'a rendu et il la reprend derrière. C'était ça le but. Alors maintenant, est-ce qu'il voulait percuter Russell? Bah bien sûr que non, il l'a pas fait exprès pour sortir Russell. Ou alors là, il est complètement abruti. On le sait bien. C'est pas là où je m'insurge un peu par rapport à ce que vous dites. Hein. C'est que non, c'est pas volontaire. Il a pas voulu sortir Russell. Il a voulu laisser passer Russell, ça on a bien compris quand même, et reprendre du coup l'avantage immédiatement. Alors il l'a fait de manière autoritaire à la Verstappen, et vous avez évoqué tout le monde, et n'oubliez surtout pas Hamilton quand même, hein, parce que dans les sept titres, si on va gratter un peu, non mais attends. Pratiquement, ou sinon, tous les grands champions, comme ça on va évacuer le sujet, les plus grands de l'histoire ont toujours eu quelques malheurs, et même pas les plus grands, vous voyez ce que je veux dire. C'est pas réservé aux champions du monde, seulement évidemment, eux, ils sont sous le feu des projecteurs. Non, pour moi, ça n'a rien à voir. Encore une fois, l'ambiance de l'époque, puis là il faudrait deux émissions pour raconter ce qui s'est passé à l'époque avec Ferrari, je mets Ferrari dans l'ensemble, hein, et la manière dont ça se passait, l'ambiance, enfin bon, faudrait remonter au Grand Prix du Japon avant aussi, vous voyez ce que je veux dire aussi, où on avait pénalisé Jacques Villeneuve. Non, si on parle de quelque chose, il faut le remettre dans le contexte. Donc là, simplement, et je suis d'accord avec vous, c'est inacceptable, il mérite une sanction. Est-ce qu'elle devrait être plus lourde? Là, il est quand même à un point, il a intérêt à se tenir à carreau les deux Grands Prix qui viennent. Hein, parce que là, s'il prend un point de pénalité, il ne pilotera pas pendant un Grand Prix.
Ce qui jusqu'au quand même, 30 juin, il a. Il a jusqu'au 30 juin.
Exactement, il a jusqu'au 30 juin. Il a les deux Grands Prix à venir, là, le Canada et l'Autriche, puisque la première faute qu'il avait commise, qui lui avait valu deux points de mémoire, hein, c'était en Autriche.
C'est ça.
Avec, ouais. Voilà, c'était en Autriche avec Norris. Donc, alors après, est-ce qu'il faut mettre plus? Vous le savez, moi... La règle, oui, mais quand elle devient trop complexe. Et là, pourquoi il y a eu ce bémol de la part de Red Bull? Et on peut dire que Red Bull s'est planté en demandant à Verstappen de céder sa place. Puisque de fait, Russell n'ayant pas la maîtrise de sa monoplace au moment où il a mis le museau à l'intérieur du virage numéro 1, il n'avait pas à rendre la place. Vous voyez ce que je veux dire? Quand on en arrive à sur-commenter, sur-réagir et sur-légiférer, on arrive à ce genre d'écart. Parce qu'il n'y aurait pas eu ça avant. Verstappen, il serait resté à sa place devant Russell. Est-ce que vous croyez qu'il aurait fait ça? Évidemment que non, puisqu'il n'aurait pas laissé la place à Russell. voyez ce que je veux dire ?
Ouais, bien sûr,
donc,
bien sûr.
On l'a mis dans des conditions. En plus, c'est quand même un pilote de course, c'est quand même. Il a le sang chaud, il est à deux tours de l'arrivée, etc. Il est en train de se battre avec une machine qui est inférieure, avec des pneus en bois. Je l'excuse pas, hein, une nouvelle fois. C'est inadmissible. On l'a dit, on l'a redit. C'est inacceptable, c'est tout ce que vous voulez. Il mérite une sanction. Ok. Bah, elle a été donnée. Maintenant, est-ce qu'il faut le massacrer et le clouer en place publique ? Non, en plus, il fait ça dans le virage le plus lent du circuit. Ça passe à 65 km/h. Faut arrêter
surtout,
quand même. Il y a un
surtout
moment.
Que dans la ligne droite sur Leclerc à 300 km/h, justement, a failli le foutre dehors.
Bah voilà.
Non intentionnellement, d'accord, mais il a failli le foutre
bah
dehors.
Voilà, c'est ce que j'ai rappelé exactement, Alex. Ouais. Parce que faut remettre dans le contexte. Et Charles, encore une fois, que j'aime beaucoup, mais là, il fait une connerie aussi. Il se rabat sur lui à plus de 300. Et si les deux roues s'engrènent, les deux, ils montent à 10 mètres. Hein. On est bien d'accord. Hein.
Je vois pas en quoi la réglementation de la FIA ou les actions de Charles Leclerc pourraient excuser celle de Max Verstappen.
Non, mais elles l'ont mis dans un état d'esprit.
Ça, encore une fois, c'est le contexte. C'est une accumulation.
Une accumulation
de choses. Ouais. Sans compter aussi que Red Bull, au-delà même de ne pas lui dire faut que tu relaisses passer Russell, alors que pas du tout j'aurais dû, il lui fout des pneus hard aussi. Hein. Mais Verstappen, pendant toute la course, il se démène comme pas possible pour aller chercher la victoire dans ce Grand Prix en gérant magnifiquement ses pneumatiques. Et d'ailleurs, on lui fait allez hop, on te met des hard et on t'anéantit tout. C'était la seule solution. Au bout d'un moment, j'excuse pas du tout tout ce qu'il a fait.
Moi
par
non
contre,
plus.
Il y a un contexte. Il y a un contexte de la mise en situation qui amène justement à cet acte, bien sûr.
Quand tu pètes un câble, ça vous est arrivé sûrement dans votre vie aussi de faire des trucs en disant après.
Jamais.
Jamais. Bah, parce que vous êtes des mecs exceptionnels.
Je suis d'une humeur linéaire.
moi, ça m'est arrivé. Bon, évidemment, on se maîtrise. Ça n'est pas péter un câble, mais dire des choses même qu'on ne pense pas, mais dans le feu de l'action. Bon, bah, quand on est ulcéré, enfin, quand même, les gars, vous avez fait du sport. Enfin, j'espère. Bon, à un certain niveau, même à votre niveau, vous avez été placé dans la situation où des fois, je sais pas, vous avez sûrement fait au moins du karting ou peut-être plus haut, j'en sais rien, mais ça. Vous est jamais arrivé en course
tu fais
de vous
ça
dire,
au karting, t'es sorti à l'instant même de la piste et avec raison.
Ouais, bah voilà. Non, mais si tu veux, bon, faut quand même arrêter de dramatiser aussi.
Je veux qu'il prenne une sanction hors de cette course-là. Un truc.
Bah, tu veux le suspendre une course, c'est ça ?
Un truc.
Ah bah tu veux le suspendre
une amende.
Mais quelque chose en fait aussi qui ouvre pas la porte ouverte à n'importe quoi dans les pilotes ou qui se disent de toute façon, enfin.
Je veux dire, tu veux qu'il y ait une sanction symbolique un petit peu.
On est en train de mettre des amendes de 50 000 balles à des gars qui disent con ou merde. Mais par contre, quand ils se rentrent dedans, là, 10 secondes et on ne sait plus où on se trouve. Et moi, pardonnez-moi, c'est un peu de la moraline ou quoi, mais moi, ce qui me rend fou, je crois, c'est que derrière, le gars ne s'est toujours pas excusé. Il a fait des espèces
il
de...
Il a fait...
Il n'aurait pas dû le faire. Enfin, et même à son équipe. Hein, vous êtes con, Horner.
Il s'est excusé auprès de son équipe
moi,
aussi.
Je vous rejoins sur le fait que c'était un dimanche de vraiment compliqué pour lui, que rien n'allait, que tout ça. Mais
il se dépouillait pour être sur le podium, hein, ça n'excuse pas.
Puisque, cher juge Paolo Orsi, puisque les deux avocats ont parlé, je vais faire le procureur.
Allez-y, monsieur procureur.
Moi, je condamne. Voilà, je suis désolé. Moi, je demande une peine incompressible et exemplaire.
Mais je comprends ce que tu veux dire, Louis. Sur la symbolique.
Voilà,
sur
exactement. C'est le mot que je cherchais. Merci. C'est la symbolique. Il faut dire attends, non, ça c'est pas possible. Et il faut une prise de décision un peu choc. Sans, je vous rejoins les amis, sans aller trop loin parce qu'on va pas y passer non plus la saison ou quoi. Mais je pense qu'il faut taper du poing sur la table quand même suffisamment pour que la situation se reproduise pas et dégénère pas ou crée de l'aigreur chez d'autres, certains qui pourraient dire attends, moi je suis pas quatre fois champion du monde, si un jour je fais ça je me prends 10 courses, pourquoi, enfin tu vois, donc voilà, faire les choses bien, déconné, il assume les conséquences, après on passe à autre chose.
Ce qui est bizarre, les gars, c'est qu'il y a même pas les commissaires, ils regardent même pas ce qui se passe entre Leclerc et Verstappen.
Il n'y a rien, c'est normal.
Mais c'est vrai que quand on voit l'image, c'est limite, c'est très très limite ça aussi.
C'est plus que limite. Attends, encore une fois, on adore Charles.
Il l'explique en souriant à la fin qu'il ne voulait pas aller se mettre dans la gomme. Mais bon, s'il n'y a pas de place, il n'y a pas de place. Quoi.
C'est pas bien. Là aussi, objectivement, s'il se regarde, lui qui est honnête, il ne peut pas être fier de ça.
Non, je ne pense pas. Je suis d'accord. Ça, c'est clair.
Il y a aussi, j'ai fait mes petites recherches, mais Verstappen, au-delà même du 30 juin, il faut quand même qu'il se tienne à carreau d'une manière assez forte parce qu'il va devoir faire 11 grands prix jusqu'au 27 octobre avant de pouvoir être un peu plus safe sur sa super licence, donc il retombera à 9 points pendant 11 grands prix, donc bon courage pour tenir ça aussi.
Tu penses qu'il a reçu le papier de Rennes? Tu sais, quand tu reçois les PV en France, tu reçois toujours de Rennes.
Avec la petite clé, la petite clé à activer en cas de paiement.
Que tu trouves jamais au début.
Tu peux jamais contester, en fait. Autriche 2024. Tu payes d'abord si tu contestes.
T'as raison, Jean-Luc. Ça a commencé en Autriche. Autriche 2024, il avait pris 2 points pour une collision sur Norris. Ensuite, au Mexique, a forcé un pilote à sortir de piste. C'était Lando Norris. Il y a eu un excès de vitesse. Il y a eu un pilotage un peu lent. Il y a eu une collision avec Piastri, ça c'était à Abu Dhabi fin de saison dernière. Donc voilà, ouais, Max Verstappen qui doit se tenir absolument à carreau là. Ouais, et Jean-Luc le disait, il s'est aussi excusé auprès de son équipe.
Sincèrement, qui pense ici qu'il ne va pas se prendre un race ban? Sincèrement.
Ah,
qui pense ici, pardon, ouais, que.
Tu peux pas.
Qui ne va pas se prendre un race ban? Je suis désolé, il a 11 grands prix à tenir.
Ah oui, tu veux dire pas qu'on lui donne, juste qu'il va faire une autre erreur qui va amener à perdre un dernier point.
Ça va
ce serait dramatique. Désolé. Alors par contre, je vais te dire un truc, on fera le débat quand ça se produira. Mais si Verstappen est vraiment suspendu une course, c'est dramatique pour le spectacle.
Autant moi, tu le suspends après celle-là, je dis bon, là, tu vois, il y a un rapport direct, il y a une sanction et il l'a fait un peu tout seul. Autant l'accumulation de plein d'incidents de course sur une période si longue, tout ça. Même si parfois t'es en tort ou quoi, je pense que parfois il y a des pénalités qui devraient rester justement au Grand Prix, quoi, et qu'une fois que tu repars de là, tu repars pas avec la valise chargée.
Puis, je vais te dire, donc, Louis, c'est aussi con que les points du permis de conduire, on est bien d'accord.
Exactement.
Deux fois tu perds un point, deux points, mais pour un truc lamentable, quoi. Mm. C'est juste pour te prendre du pognon, on le sait bien, pour te faire faire un stage, là c'est pareil. Alors, la pénalité financière, l'un d'entre vous l'a évoqué tout à l'heure, moi je suis pas très d'accord, je vais vous dire pourquoi, parce que 50 000 $ pour Verstappen, c'est que dalle, pour que la Pinto, c'est beaucoup d'argent. Donc si tu veux, c'est pas logique. Là, on est au plan sportif. Voilà, on est au plan sportif, qu'on lui mette, comme tu l'as évoqué, 4 points, après, c'est la direction de course qui décide, hein, ça, c'est vraiment... Puis pour une fois, ils ont été assez rapides, il valait mieux d'ailleurs, hein, parce que la course se terminait 2 tours après, donc il fallait quand même que ça tombe. Donc là, ils ont agi rapidement. Après, je te dis, un point de plus, un point de moins. Oui, moi, 3 points, ça me paraît correct, et puis il est à 1 point de la suspension. Écoute, à mon avis, quand même, l'épée de Damoclès, il va l'avoir au-dessus de la tête. Hein. Je veux dire, même chez Red Bull, on va lui dire, tu restes.
Isaac Hadjar dans la Red Bull, mesdames et messieurs.
Isaac Hadjar, la promotion pour un grand prix, c'est clair. Ça me fait penser que moi, il faut que je regarde où j'en suis sur mon permis de conduire. Parce que ça fait une question que je n'ai pas regardé. Je suis passé à la caisse un peu ces derniers temps. Je vais quand même consulter de la préfecture. Les gars, on bascule sur le sportif. Louis, on en a parlé, vous en avez parlé dans le warm-up, qui est bien évidemment toujours disponible avant ce grand prix à Barcelone. Peut-être qu'on attendait un petit peu trop de cette nouvelle réglementation sur les ailerons. Bon, on avait commencé à dire que ça n'allait pas avoir un impact vraiment important sur les performances. Le constat qu'on peut faire après ce Grand Prix, c'est que ça n'a rien changé.
Ouais.
Ça n'a vraiment rien changé.
Jeudi, on en parlait, on se demandait si potentiellement, enfin si ça allait être le grand changement ou un pétard mouillé. On a la réponse aujourd'hui. Clairement, tout le monde s'attendait à plein de choses. Alors, bilan du truc, quasiment rien. Alors, soit tout le monde s'est parfaitement adapté, soit on y a vu des avantages qui n'existaient pas, ou soit ils ont encore réussi à contourner le nouveau degré d'inspection de la FIA en mettant des choses un peu plus rigides, mais qui finalement finissent par se soulever encore, mais on n'a pas cette impression. Donc ça, c'est je sais pas. Est-ce que c'est ça m'a quand même assez surpris. Hein. Je m'attendais pas à une révolution, mais je m'attendais à voir au moins un peu la hiérarchie changer. Alors la seule voiture qui fait une place, on va dire vraiment surprenante, c'est la Sauber, la Kick, on ne sait jamais comment les appeler. Ils arriveront pas très vite, mais ils arriveront. peut-être que eux, du coup, ça leur a permis de faire un petit truc. On verra dans les grands prix à venir si c'était un Hülkenberg shot ou si c'est quelque chose qu'on va pouvoir voir un peu plus régulièrement. Mais sinon, pour le reste, je suis assez surpris finalement de l'absence de changement. Circuler, y a rien à voir.
Ouais, Jean-Luc, McLaren, encore une fois, la supériorité, là, ça commence à être écœurant pour la suite de la saison. Hein.
Bah voilà, écoute, moi je m'attendais pas à un changement d'hiérarchie pour être clair, et on peut reprendre ce qu'on a dit, c'est ça l'avantage avec le paddock RMC, on peut réécouter. Je m'attendais potentiellement à une réduction des écarts, parce que je pensais qu'effectivement, une partie, j'ai pas dit tout, mais de l'avantage de McLaren sur les autres, venait peut-être de là. Je trouvais que vraiment l'aileron avant était très très souple. Bah en fait non, ou alors ceux des autres ils étaient aussi souples. En tout cas, ils ont. Je me demande même si ça s'est pas accru, parce que là aussi le trou qui font à la fin, dans les derniers tours. Enfin, c'est ahurissant. Là, vous avez vu, en 5-6 tours, quoi, ils se baladent. Hein. Ils ont le coude à la portière, les deux. Vraiment, ils s'en vont. D'ailleurs, là aussi, je vais vous les ressortir, c'est maintenant les meilleurs tours en course. 61e, bah ouais, pour Oscar, parce que ça, c'est le vrai critère. Tu veux tout le reste, c'est... Bon, il y a les qualifs sur un tour, on le sait bien, mais 1,15,743. Écoutez bien. Alors, non seulement c'est le seul, ça, c'est pour Piastri, le seul à être en dessous des 1,16. Derrière, t'as Norris en 1,16,187. Au même 61e tour, et alors derrière Leclerc, mais là c'est pareil, c'est un boulevard derrière, 1,17,259. Rendez-vous compte, il est quasiment colossal. À une seconde et demie. Même
chose, c'est le plus gros
Russell.
Écart depuis le début de saison, Jean-Luc. Hein.
Ah ben voilà, c'est ce que j'allais vous dire, c'est-à-dire que là on a compris qu'avant il ménage tellement les pneus qu'en fait il se balade. Donc Piastri qui a été devant tout le temps, en gros, ben, il a ménagé un écart. Alors c'était qu'à vous rappeler 4 secondes, 4 secondes et demie, 5 secondes sur son équipier qui lui-même ménageait sur Verstappen qui à un moment est revenu un peu derrière à la faveur du dépassement de certains pilotes attardés, mais bon, ils maîtrisaient tellement bien, ils font ce qu'ils veulent, quoi. Ils font ce qu'ils veulent, comme ils veulent, quand ils veulent. La stratégie, bah, elle s'impose d'elle-même, hein. Ils ont fait le boulot comme il fallait, ils ont attendu tranquillement les 22e, 23e tours pour le premier arrêt, puis après 49-50, et après, bah voilà, là, en avant la musique, et puis on leur met bien évidemment les softs, puisqu'ils en ont un train qui reste, et puis non, c'est sans histoire, et je vais oser dire, c'est chiant, j'espère qu'il y aura une bagarre entre les deux hommes de chez McLaren, vraiment, parce que autant Norris avait fait vraiment le boulot à Monaco avec la qualif, bien sûr, et après la course, il en recueille le bénéfice, autant je ne l'ai pas senti cette fois, parce que le tour de qualif de Piastri, vous avez vu un peu ce qu'il lui a collé aussi.
C'est d'une violence, hein.
C'est radical. Hein. Là, il lui a mis une beigne, carrément, en lui disant, bon, attends, on va remettre les compteurs à zéro, et je crains que ce soit vraiment, alors, championnat constructeur, tu l'as évoqué, mon Nico, emmerdant comme pas possible, là c'est même plus la peine, les autres n'ont aucune chance. Alors bataille pour la deuxième place, bien sûr, heureusement, hein, entre Ferrari qui est revenu aux affaires et puis Mercedes et Red Bull avec une seule voiture, voilà, bon. Et puis entre les deux autres, j'espère que Norris va retrouver vraiment le sel, quoi, la passion, la vigueur, je sais pas ce qu'il a... Il a un petit ressort qui est cassé, je sais pas d'où ça vient.
Mais je pense, ouais, c'est surtout que Piastri aujourd'hui est juste plus fort que Lando Norris, hein. Auquel je n'aurais pas pensé avant le début de cette saison 5 de Formule 1, hein, mais ce que fait Piastri depuis le début de saison, et plus particulièrement depuis le deuxième Grand Prix de cette saison, puisque l'Australie il s'était loupé à cause d'une erreur, bah, malheureusement dans une situation où c'était très propice de faire une erreur, mais il est injouable, il est intouchable. C'est vraiment le meilleur pilote de ce début de saison, Oscar Piastri, avec Max Verstappen, c'est vrai, mais les séances de qualification qu'il réalise, le fait qu'il réalise aussi des rythmes de course aberrants de performance, c'est un pilote complet, il est capable de tout faire. Et ce qui montre aujourd'hui aussi que Oscar Piastri est d'une le leader de McLaren, mais aussi il semble en fait injouable. Lando Norris, on ne le sent pas aujourd'hui capable d'aller chercher un Oscar Piastri, peut-être sur une fois toutes les 3-4 courses à la limite, mais Oscar Piastri, il montre une puissance, il dégage quelque chose qui le met en lui comme étant le futur champion du monde de 705 de Formule 1. McLaren le gère parfaitement, et c'est aussi d'ailleurs la première course depuis quand même très longtemps du côté de chez McLaren où il y a une gestion qui est parfaite. En la stratégie, il n'y a pas eu une mauvaise chose, une mauvaise prise de décision.
Bon, après, ils sont tellement supérieurs, Alex, que là,
s'ils se trouvent...
Non, mais je suis totalement d'accord. Depuis le début de saison, je reprends le Grand Prix du Japon, par exemple. Le Grand Prix du Japon, McLaren devait gagner tous les jours, mais alors qu'ils avaient la meilleure voiture et de très loin. Mmh. Et pourtant, pas les erreurs stratégiques, ils laissent la victoire à Red Bull.
Et pour ajouter un mot, Alex, juste sur Piastri, hein, puisqu'on en parle, quatrième pôle cette saison, hein, puisqu'il n'en avait pas eu auparavant, il faut quand même le rappeler. Sa première, c'était en Chine. Et ensuite, donc, 7 victoires au total, dont 5 en 2025. Deuxième hat-trick et 8e podium consécutif. Voilà.
Ouais, c'est fort.
8e podium consécutif, c'est l'un des 3 seuls pilotes de l'histoire de McLaren à avoir réalisé cela, il me semble, avec Lewis Hamilton. Et j'ai oublié l'autre, d'autant.
Et peut-être Hakkinen, non ?
Ouais. Hakkinen, sûrement.
Ouais.
Ouais, à voir. Bon, ouais, on va confirmer ça, je vais regarder quand même. Bon, on va écouter Oscar Piastri, le leader du championnat du monde au micro du diffuseur Canal+.
At one point he was getting pretty close, but
ouais, à un moment ça a été serré dans la course.
The benefits of the new tires were quite short-lived.
Mais le bénéfice des pneus neufs était de courte durée quand on strategy, but Max est bien revenu avec cette stratégie.
Much quicker than us. So
mais ses pneus se dégradaient trop vite. Donc nous avons bien fait de garder notre plan. Cela ne nous a pas perturbé plus que ça. Et il fallait garder un œil sur Max, et on a bien géré.
Ouais, confirmation, c'est Lewis Hamilton et Ayrton Senna, et donc Oscar Piastri. Lewis Hamilton,
ah,
l'offre
de
Piastri.
Ayrton, ouais, bien sûr. La langue m'a levé, mais j'ai dit non, il a dû y avoir quelques clashs avec Alain à un moment ou un autre, mais non. ouais. Bah oui, en fait. Alors, juste un mot hein, aussi sur Piastri, puisqu'on est sur lui pour le moment, on va peut-être pas y revenir de sitôt, enfin avant le prochain Grand Prix, en tout cas. Bah moi, j'aimerais le voir avec un peu plus de joie. C'est juste ça qui me...
Ah, ça y est. Ça y est, t'en as marre de la poker face.
Non, mais ouais, j'aimerais qu'il soit... Alors, on sent qu'il est satisfait, comment ne pas l'être, hein, comme il le dit. Même après la pole, il dit, bah ouais. Bon, on a l'impression qu'il a fait le boulot, quoi. Juste un peu de pétillance, tu vois, un peu, je sais
ouais,
pas, moi.
Je suis
un
d'accord.
Peu de jubilation,
mais,
ça me ferait plaisir.
Mais il fait partie de cette génération un peu robotisée et pas que en Formule 1. Enfin, moi, je vois Léon Marchand. Là, en ce moment, à Roland-Garros, on a une Française qui est en quart de finale qui n'exprime rien. Je trouve que cette génération, elle a aussi une tendance, parfois, pour les super champions. Ils sont tellement préparés, tu vois, Jean-Luc, mentalement, conditionnés, à être dans leur bulle, à tout intérioriser et tout ça, que...
Ouais, ça ah, mais c'est terrible ce que tu me dis, là, mon Nico, parce que c'est l'humain, quand
d'accord.
même. Il faut...
Eh ben,
je comprends qu'il est d'une nature très, très placide, on l'a dit, très calme, très maîtrisée. À lui, on ne l'entendra pas dire un gros mot, hein, ça, t'es tranquille. Il va pas prendre d'amende de notre ami Mohamed.
C'est vrai, que, qu'à contrario, il y a Isaac Hadjar, qui est tout l'inverse. Ce que me dit Romain Leroutier, notre producteur, là, c'est vrai qu'Isaac, c'est tout l'inverse, mais bon, ouais, je suis d'accord avec toi sur
mais
ça.
C'est dommage si réellement c'est une génération, bah écoute, à mon avis, ils perdent quelque chose là, mais bon, voilà.
Les gars, basculons sur Charles Leclerc, Louis. Ça va mieux pour ton Leclerc.
Ouais.
Voilà, on l'a vu la semaine dernière à Monaco, et puis l'embellie se poursuit vraiment. D'ailleurs, il était bien plus satisfait là après Barcelone qu'après Monaco. On l'écoute.
Bah, c'est positif pour l'instant. Après, il faut qu'on continue à bosser parce que c'est clairement pas ce. On n'est pas satisfait par ça. Après, dans l'ensemble, ce week-end, je suis content. Je pense que j'ai pas le souvenir d'avoir pris une décision qui nous désavantageait autant le samedi en espérant que ça nous aide le dimanche. Et aujourd'hui, ça a plutôt fait le job. On a été bien sûr chanceux. Je pense qu'on aurait fini quatrième dans une situation normale. Avec le safety car, on a eu la chance, donc du coup, ça nous amène le podium. Mais bon, clairement, la stratégie était payante. Donc sur ça, j'étais plutôt satisfait. Et ça, c'est aussi grâce au team. Depuis le vendredi, on pousse sur ça. Et bon, après, j'avais la confiance de faire ça. Donc on est parti sur ça. Mais bon, on était un petit peu les seuls. Donc on avait des doutes quand même en arrivant ici. Et être deuxième au constructeur, c'est plutôt positif. Mais c'est pas ça qui me donne le sourire. On a envie de gagner.
Bon, il est quand même un petit peu plus positif que d'habitude, Charles. Louis, tu sens que voilà, ça va un petit peu mieux, que ça va dans le bon sens. Hein. Même Fred Vasseur, le boss de la Scuderia, l'a dit. Il sent qu'il se passe quelque chose quand même.
Bah voilà, c'est ça. C'est surtout, il le dit, c'est que ça va dans le bon sens. Après, je pense qu'il est toujours pas très satisfait de la rapidité à laquelle ça va, parce que pour un pilote, ça va jamais assez vite. Le point positif, c'est qu'il remonte en qualif comme en course, et surtout, bah, ça, bon, tu vas me dire, ça c'est assez linéaire depuis le début de la saison, mais ça se reconfirme encore bien. Il avait beaucoup plus de rythme le dimanche qu'Hamilton. Alors, ils n'étaient pas, sur la même strat.
Le train de pneus,
bien sûr.
Louis, tu le sais. Ouais.
Ils n'avaient pas la même strat, mais comment dire, du coup, ça met pas en porte-à-faux, mais ça donne tout de suite à l'équipe la situation dans laquelle il faut faire un choix. Et ils mettent 2 tours et demi à peu près. Enfin, ils mettent un peu longtemps, je pense, quand vraiment, comme tu l'as dit, Jean-Luc, t'es pas sur la même stratégie. Donc, bah,
voilà.
Faites-le tout de suite, comme ça. Enfin, parce que là, ils ont perdu, tout le monde a perdu un peu, quoi, à ne pas oser le faire, quoi. Donc, à ce niveau-là, ça méritait peut-être, alors je ne sais pas, dans le briefing d'avant-course de l'équipe, de tout simplement dire on le fait comme ça. Ce n'est pas une question de pilotage, de qui est devant, de qui reste devant. C'est juste, bah
c'est
en fait,
un choix stratégique.
Bah ouais, Charles, on l'envoie, il va foncer un peu au début, puis après on va rééquilibrer, choses comme ça. Donc voilà, donc ça c'est un peu dommage, mais bon, comme tu dis, les discours font plaisir à entendre si s'ils y croient, c'est-à-dire que ça vient vraiment dans le bon sens. Et ben, bah tant mieux. Et puis hâte d'être au prochain Grand Prix pour voir si ça se confirme.
Ouais, pour voir si ça se confirme un petit peu cette.
Où ça avait été la Bérésina, vous rappelez l'an dernier au Canada.
Ah oui, Canada, ils avaient fait un gros
après
zéro pointé.
La victoire de Monaco, ils avaient sombré. Là, c'est pas dans le port.
Ah ouais, zéro pointé. Alex, il y a ce choix stratégique en qualif là qui est fort, hein, de la part de Leclerc. Il faut que tu nous expliques un peu ce qu'ils ont fait le samedi et pourquoi ils l'ont fait pour le dimanche.
Parce qu'il fallait avoir une pluralité de choix stratégiques pour la course. En fait, Ferrari est aujourd'hui dans une situation où ils sont obligés de prendre des risques. Ce qui est dommage quand même pour la Skoda Ferrari au vu de l'historique de l'écurie et au vu de à quel point ils sont assez loin par rapport à McLaren, par rapport à Red Bull aussi également et également par rapport à Mercedes. Ils sont obligés de prendre des risques. Donc du coup, Leclerc, si je me souviens bien, il a choisi de faire qu'un seul tour de qualification pour ne pas en retenter un deuxième pour avoir...
En
Q3, exactement, pour ensuite avoir un train de pneus soft en plus pour la course, au cas où il peut y avoir une safety car et avoir un choix stratégique plus gros. Ce qui a, d'une certaine manière, payé, parce que Leclerc, miraculeusement, termine 3e de ce Grand Prix. C'est un miracle aujourd'hui, encore une fois, ce que réalise Charles Leclerc avec la safety car. Et c'est un miracle aussi de voir la Skoda Ferrari qui est à l'agonie, parce que je pense qu'on peut parler d'agonie par rapport à l'histoire, encore une fois, de cette écurie et des promesses qu'on avait par rapport à ce début de saison, que Ferrari soit 2e au championnat du monde constructeur, devant Red Bull et devant Mercedes. Et surtout avec une disqualification en Chine, où ils ont pris 0 points. Et surtout, mettre l'accent justement sur Charles Leclerc. Ce que fait Charles Leclerc depuis le début de saison, c'est exceptionnel, c'est incroyable. Il a été salué par Frédéric Vasseur et à juste titre, parce que ce que produit Charles Leclerc, notamment avec un Grand Prix Monaco, il va terminer deuxième avec une monoplace, il faut le dire, dans laquelle il ne se sent pas serein, où il est obligé également de prendre des risques, notamment au niveau des setups, et qui Ferrari qui laisse tomber, on va dire ça ainsi, ses pilotes en séance de qualification où ils sont obligés. De presque prier comme pas possible pour espérer que la voiture s'élève en séance de qualification. Et à chaque fois, Leclerc est là pour sauver la Skoda Ferrari. Et surtout, il me semble que c'est quand même le troisième podium de Leclerc depuis le début de saison. Troisième, c'est exceptionnel ce que produit Charles Leclerc vraiment depuis le début de saison. Et surtout à Barcelone, là.
C'est clair. Jean-Luc, sur Leclerc et la Scuderia, on a la sensation que Charles, il maximise tout ce qu'il peut, que pour le coup, en course, ils ont toujours ces stratégies qui sont payantes. Est-ce que toi, tu vois une réelle amélioration au niveau de la voiture ?
Un petit peu. Là, ils ont apporté des nouveautés. Bon, au-delà des modifications imposées sur l'aileron avant, mais il y a des upgrades là qui arrivent. Et j'adhère totalement à ce que dit Alex. Bon, ils sont pas évidemment au niveau où ils voudraient. Au niveau où ils voudraient, c'est déjà en bagarre avec McLaren, même pas forcément devant. Mais à leur niveau, ils en sont très loin. Alors globalement, on a bien vu. On va en toucher un mot aussi que Mercedes sauve un peu les meubles d'un côté, puis les perd de l'autre. Bon, Mercedes c'est très inégal et Red Bull repose uniquement sur un pilote. Donc oui, globalement, Ferrari, c'est pas injuste. La deuxième équipe du plateau, parce que je pense qu'on va en dire un mot maintenant. Hamilton, évidemment, est pas au niveau de Charles, loin s'en faut. Mais bon, il apporte quand même des points. Il est là, il est solide, il fait ce qu'il peut, sans grande passion, sans grand enthousiasme. C'est un euphémisme. Mais non, écoute, c'est mérité. Puis Charles, effectivement, il surpilote dans le bon sens du terme. Il en tire le meilleur. Alors, il va falloir que la Scuderia progresse. Si on veut avoir, là aussi, on peut déjà parler d'une deuxième moitié de saison quasiment un peu intéressante. Parce que le but, c'est quand même qu'ils soient en bagarre avec les McLaren et pas qu'ils les regardent passer. C'est un peu ça, le but.
Ouais. C'est vrai. Notre débat autour d'Isaac Hadjar qui a fait encore une superbe course. Isaac Hadjar, on en parle. J'ai l'impression qu'à chaque paddock, on est obligé de parler d'Isaac parce que ce qu'il réalise, c'est assez exceptionnel. Un septième de ce Grand Prix, une nouvelle fois. Selon lui, le meilleur de la saison. On l'écoute.
Je pense que c'est peut-être mon meilleur week-end de l'année. Sauf qu'à Monaco, c'était assez fou, mais là, honnêtement, j'ai vraiment senti être très, très, très solide, surtout en qualif. J'ai vraiment maximisé ce que la voiture pouvait faire. Aujourd'hui, en rythme de course, on était vraiment bien. La stratégie a été bonne, donc non, honnêtement, je suis super content. C'est juste dommage à la fin que Hülkenberg, il nous dépasse, mais c'était impossible de le contenir sur les pneus neufs, il était trop rapide. Ça donne beaucoup de confiance. Je pense que là, Je suis tellement à l'aise dans mon équipe, dans ma voiture, qu'on va faire que progresser. Et je pense que surtout avoir réussi sur une piste comme Monaco, qui est très technique, c'était le challenge ultime, on l'a fait. Là, j'ai plus aucun doute pour la deuxième partie de saison.
Ouais, Isaac Hadjar au micro de Canal. Bon, on va pas répéter les gars ce qu'on dit tous les week-ends sur Isaac. Le rookie le plus solide, attention à pas s'enflammer. Juste la question que je vais vous poser, c'est est-ce que c'est vraiment son week-end le plus solide de l'année? Est-ce qu'il monte encore en régime, Isaac Hadjar?
Ouais, clairement. Et de, je vais pas dire de très loin non plus, mais c'est des week-ends en fait qui sont de plus en plus aboutis. Et je parle essentiellement de la FP1 jusqu'au dernier tour du Grand Prix. De voir qu'il est solide dans le travail qui est fait en séance d'essai libre pour ensuite bien construire ses week-ends, aborder les séances de qualification. En fait, en ayant le sentiment que Isaac Hadjar sera tout le temps en Q3 avec une V-Carb. Alors que de l'autre côté, on a Liam Lawson qui est en difficulté. On ne le sent pas solide dans ses actions, notamment en piste. La comparaison forcément se fait par les coéquipiers en Formule 1. Tu regardais Isaac Hadjar, il a fait un festival de dépassement et de belles batailles aussi avec Pierre Gasly, où il s'est défendu aussi également. Mais quand tu regardes Liam Lawson, à chaque fois c'est poussif, c'est limite très forcé ses attaques pour les dépasser, et même notamment pour défendre. Et quand tu regardes Isaac Hadjar, il y a une solidité, et c'est pour ça que ce Grand Prix d'Espagne, je pense qu'il caractérise et il prend vraiment en valeur par rapport au fait que c'est un Grand Prix qui symbolise plutôt, l'ensemble de son début de saison abouti en fait à chaque fois. Et encore une fois, le prochain Grand Prix qui sera au Canada, on verra Isaac Hadjar encore meilleur.
Tu sais qu'il a une stat, bon, à relativiser, hein, mais il a une stat quand même. C'est le seul pilote de la grille qui n'a jamais été éliminé en Q1. Alors oui, il a disputé que 9 séances, séances même, de qualif, les autres ils se sont tous fait sortir en Q1 une fois. Mais
tu sais que sur le triple header là, qu'on vient d'avoir, c'est le 7ème pilote à avoir marqué le plus de points, hein. Et il est un point derrière George Russell, alors oui, qui a subi des abandons, et notamment à Monaco, mais il est devant Albon, il est devant Hülkenberg, il est devant Ocon notamment, et bien loin devant d'ailleurs Liam Lawson.
Mais Louis, en fait, ce qui est fou avec Hadjar, c'est que maintenant ça devient une banalité de le voir en Q3. Tu vois, moi, par exemple, j'ai pas suivi la séance de qualif en live, je l'ai regardé après en replay, mais j'ai quand même zappé parce que nous, à la rédac, à RMC, on était focalisés, vous imaginez bien, sur la finale de la Ligue des Champions du Paris Saint-Germain ce week-end.
Donc, ils ont gagné. Moment, je me mets. Ah, ouais,
ouais, je peux t'assurer qu'ils ont gagné. Ça faisait beaucoup de bruit. À un moment, je zappe, je vois Hadjar Q3, je suis même plus étonné en fait. Ça devient la classique, quoi. Il a banalisé ça, Isaac.
Ah oui, alors il te faut toujours une voiture, hein. C'est-à-dire que tu peux pas le faire tout le temps avec n'importe laquelle, mais lui clairement, là en ce moment il est très très bien, son coéquipier, tu lui mets n'importe lequel, il s'en occupe, les performances sont solides, même quand Helmut Marko le tense après un vendredi compliqué à Monaco, derrière son week-end est parfait. Là, encore une fois, c'est le cas. Donc, franchement, c'est impressionnant. Donc, c'est toujours pareil dans les dynamiques. Quand on est là, ça veut dire que là, normalement, la prochaine étape, ça va être le couac, ça va être la petite descente, le petit coup dur. Donc, on verra si là, il a déjà suffisamment appris pour bien le gérer et pas s'écrouler comme d'autres. Le coup dur que ça pourrait être, paradoxalement, ça serait d'arriver trop tôt dans l'autre baquet. Entendu dans son son là à la fin quand il dit je me sens trop bien dans l'équipe et dans la voiture. Envie de lui dire mais s'il vous plaît, ne l'envoyez pas là dans la voiture maudite trop tôt.
Mais tu sais que c'est un truc tout bête, mais il est en train d'assurer son avenir en Formule 1. On rappelle qu'officiellement il n'a pas prolongé pour l'instant, Isaac Hadjar, il n'avait qu'un contrat.
Année. C'est clair qu'on doit le regarder dans les autres.
Et là clairement il assure son avenir en Formule 1 dans l'univers Red Bull. Il y a d'autres pilotes comme Liam Lawson ou même Yuki Tsunoda qui ne sont pas assurés d'être dans l'univers Red Bull l'année prochaine, et il y a surtout un pilote en Formule 2 qui est en train de toquer à la porte et qui à mon sens sera certainement en Formule 1 l'année prochaine, dans une des deux écuries de Red Bull, c'est Arvid Lindblad. Hein. Donc là, Hadjar se sécurise et c'est une excellente nouvelle. Par contre, si t'es Liam Lawson ou Yuki Tsunoda, tu dois un peu serrer les fesses.
Mmh. Ouais, c'est ce que j'allais poser comme question, Jean-Luc. Pour toi, ça y est, il a gagné sa place en 2026 là, avec ce qu'il a fait, alors qu'on en est qu'à la 9e course.
Ah oui, il la mérite. Non, mais tout ce que vous avez dit, je ne peux qu'y souscrire comme à chaque fois. Écoute, il confirme, il est dans le top 10, ce qui est quand même incroyable. Et il débarque en Formule 1 dans une écurie, on va dire moyenne, hein, de deuxième zone. Alors, comme l'évoquait Louis à l'instant, il faut la monoplace pour réaliser des performances. Mais là, à part, encore une fois, c'est la dernière fois que j'en parle, c'est promis, le faux pas du début, il fait zéro faute en 8 courses. Il est impeccable. Il est dans le top 10 en qualif, il est dans le top 10 en course. Non, c'est fantastique. Là, il a 21 points, il est devant Ocon pour un point, il assure une nouvelle fois la majorité des points de son équipe. Alors, Lawson retrouve un tout petit peu de compétitivité, j'ai regardé les écarts, bon, il n'est plus qu'à 3-4 dixièmes en moyenne, alors qu'il était vraiment nulle part. Il reprend, et c'est très bien, hein, parce que deux pilotes qui se poussent dans une écurie, c'est toujours une bonne chose. Non, maintenant, c'est plus une surprise de le voir dans le top 10, voilà, de le voir marquer des gros et des bons points, et il le mérite largement. Encore une fois, on n'est toujours pas à l'exploit, mais on s'en rapproche encore un peu plus. Ça va arriver.
Ça va tomber, mon Jean-Luc, tu nous le dis, à chaque week-end, je sens qu'il va tomber. Ça va arriver.
Mais du coup, pour Lawson, c'est compliqué de... parce que je pense que Lawson, il s'est quand même repris de tout ce qui lui est arrivé et il faut le reconnaître, il faut le féliciter, un peu comme ce qui était arrivé à Pierre ou Albon. Voilà. C'est quand même des gars... il faut quand même... on verra si Doohan a la chance et la possibilité de faire un retour et voir comment il le gère un jour, mais c'est des mecs... ils se font détruire... il faut se dire, j'ai 20 ans... je réalise mon rêve et on me le broie en m'humiliant parce que je veux bien qu'ils aient leur part de responsabilité. Oui, de facto, ils ont été moins rapides que Max Verstappen. Mais il y a quand même des manières de manager le gars qui, encore 3 mois avant, que tu considérais comme la pépite de ton académie. Et puis derrière, tu l'envoies comme ça au pilotis, comme disait Didier Deschamps. C'est ça qui est fou avec ce baquet et avec Lawson. Et donc, pour en revenir à ce que je disais, c'est que Lawson, pour moi, ça fait quand même quelques courses qui s'ermit dedans, qui recommence à faire des performances plus que correctes, de bonnes performances. Mais comme Hadjar, il est au top, le paradoxe, c'est que du coup, on a l'impression que lui est encore bien largué alors qu'il revient. Après, le bon côté, c'est que tous les spotlights sont sur Hadjar et que lui, il peut bosser tranquillement pour revenir. Ça, c'est le bon côté. Clair.
Ouais, et puis il n'est pas très loin des points, là, quand même. Hein.
Il n'est pas loin. Il n'est pas loin, il est 11e. Il est 11e. C'est 5 Q3 pour Hadjar depuis le début de saison. Une Q3 pour Lawson.
Et pour revenir sur le match, Nico, lui, avec Pierre Gasly, avait le maillot sur les épaules devant le match. Ils ont dîné avec ton cher Adrien Tambay, Jean-Luc. Ils étaient tous ensemble devant le match. On a vu une story sur Instagram qui était très sympa, moi en tant que supporter.
Dingue du PSG, les deux. Même Esteban Ocon, d'ailleurs. Hein, c'est
alors,
club,
ouais,
j'ai
pas vu, et je connais pas la passion pour d'Esteban pour le foot. Lui aussi.
Il est très, très Paris Saint-Germain. Oui.
D'accord, ouais, super. Super.
Après,
une qualité
c'est surtout
plus pour
Pierre
Esteban.
Gasly. Quoi. C'est surtout Pierre Gasly.
Parce que Pierre Gasly s'affiche. C'est-à-dire que. Exactement, il était dans la corbeille, il a été pote avec Neymar, aussi avec les joueurs de NBA. Enfin bref, il se montre. Et son amour du sport, il la montre beaucoup plus qu'Esteban, qui globalement sur sa vie privée est très discret.
Double joie pour Pierre Gasly ce week-end, puisque en plus de la victoire du Paris Saint-Germain, il a enfin marqué des points. Les amis Alpine qui remontent le bout de son museau. Mine de rien, Jean-Luc, c'est la 5e qualif en Q3 pour Gasly depuis le début de saison.
Il surperforme, c'est clair. Pierre, on le sait tous, hein. Évidemment, puisque Flavio nous a dit qu'il serait champion du monde en 2027, on va y croire. Non, mais c'est un excellent pilote, bien sûr. Là aussi, il tire plus que le meilleur de la trappe à neige qu'on lui met à disposition. Je vais même pas parler de son équipier, le pauvre, comment il s'appelle? Ah oui, Colapinto. C'est une pitié.
Polaroid bientôt.
J'ai peut-être misé sur le mauvais cheval. Je vais pas vous mentir.
On en parlera de ton petit prodige.
On en parlait hors antenne. C'est vrai. Que c'est le pauvre, on l'a pas aidé non plus. Hein. Maintenant, il démontre qu'il fait pas mieux que Doohan. Globalement, on va attendre encore un peu plus. Mais bon, voilà. En tout cas, Pierre, lui, il tire son épingle du jeu, même si Alpine est toujours quand même dernier au championnat. Faut pas l'oublier. Avec 11 petits points, alors que Aston et Kick Sauber, on va les appeler comme ça, en a 16. Bon, il commence à exister grâce à Pierre. Alors, effectivement, maintenant, il va peut-être en avoir un peu marre, lui aussi, un jour, de porter tout ça sur les épaules tout seul. Et puis, faudra qu'on lui donne un engin capable de performer un peu mieux que ça. Mais c'est remarquable ce qu'il fait. Avec une excellente qualif, hein, quand tu es déjà dans le top 10, après, bon, tu vas me dire c'est facile à dire, mais il suffit de s'y maintenir. C'est déjà c'est déjà plus difficile que de remonter de la 19e position comme essaie de le faire Colapinto ou le faisait Douane. Hein. Ouais. Voilà l'histoire. Alors juste un mot, mon Nico, parce qu'on est passé très très vite sur Hamilton. Je sais pas si tu envisages d'y revenir ou pas.
Vas-y.
Ah bon. Ouais, non, mais je voulais juste te dire que là aussi, malheureusement, c'est pas des bonnes nouvelles. Hein. Il est brisé, quoi. Quand on lui demande à la fin, vous avez entendu comme moi, on lui demande qu'est-ce qu'il attend, le prochain Grand Prix. Non, je rentre à la maison. Et il est cramé. Là, il est cramé. Puis alors, l'écart avec Charles se creuse dramatiquement.
C'est abyssal, là.
Ah là, c'est abyssal. C'est exactement ça. Là, ça devient presque humiliant. Alors bon, il prend les petits points qu'il a à prendre. Il est quand même dans une Ferrari avec une bonne stratégie et tout, et des arrêts au stand. Et éclair, sans jeu de mots, pas Leclerc, éclair, très rapide. Et puis, c'est quand même un septuple champion du monde. On va, encore une fois, à chaque fois, il faut le dire la même phrase. On va pas lui enlever tout l'immense talent qu'il a et le palmarès formidable. Mais là, il est pas, quoi. Et on voit pas la solution. Et j'ai même le sentiment, à travers les propos de Fred Vasseur aussi, que je sais pas si Fred continue vraiment à y croire complètement. Hein. Il le soutient, ils font tout ce qu'ils peuvent, mais bon, il va falloir que ça vienne, et que ça vienne quand même avant le break de l'été. Hein. Attention, parce que le décompte, là, il est engagé, et il va y avoir le break fin juillet. Si vraiment, à un moment, Lewis n'a pas démontré qu'enfin il pouvait utiliser cette Ferrari par rapport à Charles, ça va devenir très, très, très inquiétant pour l'avenir.
Non mais c'est surtout juste
fin de carrière. Ça peut être une fin de carrière dramatique, Alex, pour Hamilton. Enfin, dans l'image laissée, hein, ça.
On
va pas lui enlever tout ce qu'il a fait.
On a connu des carrières, des fins de carrière plus dramatiques en Formule 1, malheureusement.
Ça peut être une fin de carrière peut-être dramatique, mais bon, moi, le gros drame que j'ai vu, c'est quand même une Ferrari qui s'est dépassée par une sauveur. Il fallait que ça tombe sur Lewis Hamilton, quand même. Hein. Ouais, j'ai cru que c'était fait par ChatGPT cette image, mais non, c'était réel.
J'ai pas osé le rappeler, mais alors là, ça c'est dur.
Non, mais ça, alors ça permet aussi de faire attraction sur Nico Hülkenberg, ce qu'il a produit.
Allons-y.
Non mais ce qu'a fait Nico Hülkenberg et Sauber, c'est, alors je l'avais dit un petit peu sur le début de saison par rapport à particulièrement à Sauber, comme quoi ça Sauber allait mieux, et Sauber de toute façon allait mieux au moment où j'avais dit ça, parce qu'ils ont beaucoup changé de choses sur la voiture et notamment par rapport à l'approche de la saison 2026 avec forcément la structure qui se changera en constructeur Audi. Mais là, ce que produit Nico Hülkenberg, juste individuellement, avoir fait une course aussi fantastique avec avant ce Grand Prix, avec la dernière voiture de la grille, c'est exceptionnel. Et surtout que c'est pas étonnant de la part de Nico Hülkenberg, parce que ce qu'il avait produit avec Aston l'an dernier, ça relevait du même acabit. Il produit toujours par son expérience quelque chose qui peut faire développer une écurie, et ça va clairement dans le bon sens avec les améliorations. Également aussi Gabriel Bortoleto, hein, parce que ce que fait Hülkenberg, c'est très bien.
Ouais, il était là.
Mais Bortoleto, en séance de qualification, il a été très bon. C'est vrai que Nico Hülkenberg, il était parti 15e, il n'a pas fait une bonne séance de qualification. Mais ce qu'a fait Bortoleto sur ce week-end de Grand Prix, c'était aussi très très bien, hein, parce qu'il était proche des points. Malheureusement, c'est la safety car qui l'empêche d'aller chercher les points. Donc vraiment, Sauber, au-delà même de Nico Hülkenberg, c'est vraiment la globalité de l'écurie avec le line-up qui est vraiment très très bon, et on a une base solide pour se développer sur l'avenir.
Ben on l'écoute, Nico Hülkenberg au micro de Canal toujours.
Yeah, just happy. Just very, very happy, very positive, obviously. Big result for us. Doesn't happen that
positive,
often.
Très positif, c'est un résultat pour nous, ça n'arrive pas souvent.
From Melbourne to score points again, only now.
Melbourne. Nous ne marquons des points que maintenant. Hier, j'étais très en colère contre moi-même après la qualif. J'avais cette rage en moi et je l'ai utilisée pendant la course. J'ai fait un super premier tour, un bon rythme tout au long de la course. Les améliorations apportées par l'équipe ont porté leurs fruits et ça nous a remis dans la bagarre du milieu de peloton. Donc c'est une super nouvelle pour nous. C'est vrai que je ne vous ai pas donné le classement de Sauber du coup. Mais avec ces gros points-là, ils sont remontés 8e. Ils sont passés devant Aston Martin et Alpine, ils sont remontés 8e. Égalité de points avec Aston Martin. Ouais. Mais en plus, c'est un mec qu'on aime bien, Hülkenberg. Il est toujours là, il répond toujours présent. Dès qu'il peut faire un résultat, qu'il a les moyens pour les faire avec sa voiture, il performe, Jean-Luc.
Il est solide, il fait pas de fioritures, 37 ans quand même, hein. Ça veut dire que on peut être âgé et encore performant. Non, mais c'est vraiment bien ce qu'il fait. Et puis lui, il fait pas de fioritures, tu vois. Là, j'allais dire, c'est un vrai pilote, c'est-à-dire que il pilote, il fait du mieux possible avec le matériel qu'on lui donne. Et comme vous le rappeliez avec la Haas l'an dernier, il avait produit quelques coups d'éclat. Il confirme ici. Ça a pu surprendre quand effectivement on l'a engagé dans la perspective d'Audi, mais c'est une très très belle référence, y compris pour Bortoleto. Pistoletto, dont le talent, on rappelle quand même que c'est le champion de Formule 2 en titre, hein, dont le talent n'est pas à mettre en cause non plus. On progresse dans l'équipe et bah, ma foi, ça fait plaisir parce qu'ils étaient les pauvres derniers, ils étaient nulle part tout le début de la saison. Là, ils commencent à exister. Bon, c'est pas une bonne nouvelle pour Alpine, évidemment, mais on s'en réjouit quand même. C'est vraiment du très très bon travail. Alors, son départ était extraordinaire, hein, je sais pas si vous avez vu. En plus, bon, il est obligé de prendre l'échappatoire, hein, de mémoire, mais il n'est pas sanctionné parce qu'il a été un petit peu obligé de le faire. Et je crois qu'il prend 5 places dans le premier tour.
Ouais, c'est ça,
quelque chose d'absolument fabuleux.
Ouais, exactement. Louis, est-ce que tu as d'autres choses là à retenir de ce Grand Prix ? Bon, bah, Williams était absent pour la première fois de la saison. Peut-être on les a vus en difficulté tout au long du week-end. Bon, Colapinto, on en a parlé. Je ne sais pas si tu veux revenir sur ça, mais voilà,
non.
C'est compliqué. Et puis, non.
Non,
non.
Non, le problème de ce baquet global, tu vois, de Colapinto, c'est qu'en fait, moi, je suis fatigué de ce baquet, de ces histoires. Je te dis, moi, en fait, ça me fatigue qu'on joue avec ces gosses. Enfin, je ne veux pas faire pleurer dans les chaumières, tu vois, mais genre, essayer de prendre des décisions un peu correctes et. Et on envoie le gamin au moins pour 6 mois ou quoi, mais là ça a aucun sens, donc non. C'est un sujet qui me passionne pas, mon cher Nico, ton petit prince.
Et puis juste un mot, Louis, pour rebondir, ça va pas faire plaisir à Nico non plus, mais le communiqué de presse alpine qui dit ou qui laisse entendre clairement qu'il a 5 courses, et derrière notre ami Flavio qui dit maintenant il a pas 5 courses. Alors bon, faut se mettre d'accord.
Il a plus que 4 s'il a roulé.
Bah ouais, c'est ça, exactement, on en est à 4, donc je te dis pas comment il doit avoir la pression, il doit pas bien dormir. Hein,
non, mais tu vois.
Écoutez, ça arrive de se planter des fois quand on joue aux courses, des fois on mise sur le mauvais cheval. Bon, je me suis peut-être planté, oui, je l'avoue.
Mais quand j'entends Alex dire que parler de Sauber et de tout ce qui va mieux, moi je m'inquiète. Est-ce que on va la cuillère de bois pour Alpine là,
ah,
pas qu'il nous fasse dernier,
très bien parti là, hein,
dernier du constructeur. Ah non, quand même pas quoi. Ah non.
Aussi.
En plus, c'est genre pour lâcher le moteur Renault, tu vois, parfait quoi.
C'est la faute du moteur.
Pour le rentrer au garage, finir dernier, t'es là, tu fais mais non quoi, mince quoi. Enfin bref.
Ouais. Bon, ça tranchera un petit peu avec les déclats du conseiller spécial. Hein, parce qu'il nous a annoncé une grande saison quand même.
Ouais.
Ah bah, moi, à mon avis, il devrait se mettre au volant, lui. Hein. Il n'a plus que ça à faire. Bah, il a tous les titres, toutes les casquettes pivotantes. Donc là, il lui reste plus que ça. De toute façon,
je suis pas sûr qu'il lui reste des points sur son permis, Jean-Luc, à Flavio. Hein.
Ouais, pas non plus. Mais bon, de toute façon, il a viré tout le monde et fait partir les autres. Donc, il va se mettre dans le baquet.
Juste,
hein.
petit point même sur le règlement sportif. Alpine, s'ils veulent enlever Colapinto, par exemple, ils peuvent mettre Polaron, mais ils pourront plus remettre d'autres pilotes parce qu'il me semble que réglementairement parlant, une écurie ne peut pas engager dans une seule et même saison de Formule 1, plus de 4 pilotes. Plus de 4 pilotes. Donc,
faudra aller chercher en réserve, c'est ça ouais.
Bah, okay, sinon, ouais. C'est-à-dire qu'en gros, s'ils mettent Polaron, ils devront garder Polaron jusqu'à la fin de la saison ou remettre derrière un Colapinto ou un
Douane ressorti des fagots.
Ressorti
Douane. Mi-septembre.
Mon Franco,
vous vous rappelez Et attendez, mais tout ça part aussi. La genèse, au début, on a commencé par mettre Douane aussi en fin de saison et virer Ocon comme un malpropre. Non, mais vraiment.
C'était élégant, ça. C'était vachement élégant.
On a l'impression que c'était il y a tellement longtemps. Bon, les gars, merci beaucoup. Et il s'est passé plein de choses au final à Barcelone. Bah moi, oui. Je suis de l'avis d'Alex. Hein. Mon petit 3-3,5. Parce qu'en fait, rien que pour cet incident Verstappen-Russell, c'était un grand débrief.
Ouais, moi, j'étais influencé. J'ai eu tout le week-end, j'étais rouge et bleu. Tu vois, j'étais dans un autre mood.
C'est vrai, je peux comprendre. Les gars, merci beaucoup. Prochain Grand Prix dans
Canada. Deux semaines.
15 jours.
En même temps que les 24 heures du monde, c'est bien.
Exactement, c'est le bon week-end du 15-16 juin, là, le Grand Prix du Canada. Bien évidemment, on sera là avec le warm-up du Grand Prix du Canada dès le jeudi et le débrief chaque lundi. Je vous rappelle que le paddock est disponible sur toutes les plateformes de téléchargement, qu'il faut nous mettre une petite note et que si vous aimez bien interagir avec nous, si vous voulez nous envoyer des petits commentaires, il y a la page Instagram désormais, RMC Formule 1. Vous pouvez nous envoyer des petits coms et nous on fait tout pour vous répondre. Voilà. Ciao les amis, du coup, on se voit dans 15 jours. Bye bye.
Ciao. Salut.
Le paddock RMC.